Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 158, ici Richard Delhomme. Tenez-vous bien, aujourd'hui je ne parle pas avec un athlète d'un niveau incroyable qui a traversé un pays à toute allure en dormant 3 quarts d'heure et en mangeant 2 sneakers. Non, aujourd'hui je reçois 2 débutants et une débutante. Et ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je vous ai, vous les débutants et les débutantes, totalement négligés depuis quelques temps. Et récemment, je me suis fait alpaguer lors d'un festival et on m'a dit « Ouais, demain, je fais mon premier 100 km, c'est super bien, je suis super content !» Et puis 3 jours après, on m'écrivait à nouveau pour me dire « Eh, on s'est vu samedi au truc, j'allais faire mon premier 100 km !» Et ça s'est hyper bien passé. Donc j'ai décidé de faire un épisode avec Sorine, Aurélien et Louise qui, le week-end dernier à Angers, ont fait leur premier 100 km en gravel. Alors, quand on dit débutant, c'est pas totalement débutant, parce que Louise, en réalité, elle a un record à 217 km, mais sur la route. Autant dire que ça compte pas du tout. Hein, voilà. Sorine, j'en ai pas la moindre idée. Aurélien, je sais qu'il a fait son premier 100 km récemment, donc à Angers, et que ça s'est très bien passé. Le bougre, m'a-t-il dit, il a même fait la moyenne supersonique de 24,5. Donc les gars, et Louise, je vous propose d'allumer votre micro. Et vous allez me raconter, on va commencer par Louise, vous allez me raconter comment et pourquoi vous avez décidé de vous mettre au gravel et comment vous vous êtes dit, tiens, je vais faire 100 km. Et qu'est-ce qui a été difficile? J'aimerais bien savoir ça. À toi, Louise.
Bah, du coup, moi, j'ai décidé de me mettre au gravel parce que j'ai vu de plus en plus de copains se mettre au gravel et ils avaient l'air de vraiment trop s'amuser, notamment mon amie Annabelle avec qui je fais beaucoup de vélo de route. Elle a commencé avec un gravel pour ensuite s'acheter un route, donc elle a fait un peu l'inverse de moi. Et elle m'a souvent parlé du gravel, comment c'était trop chouette de parcourir d'autres chemins, etc. J'avais fait un court voyage au Canada où j'avais fait un peu de VTT et c'est vrai que c'était une pratique qui m'avait beaucoup plu, notamment là-bas j'avais découvert les singles, etc. Et donc là, il y a 3 mois à peine, je me suis fait un petit cadeau et je me suis acheté mon premier gravel.
Ouais. Et quel cadeau, parce que je l'ai vu ton vélo dans la tente où tu étais en train de faire changer tes pneus. Rafraîchis-moi la mémoire, c'est un Cervélo carbone, je crois, c'est ça?
Voilà, c'est le Cervélo Aspero monté en SRAM Apex 11 vitesses. Et donc, ouais. Ce qui est très chouette avec ce modèle, c'est que moi, j'ai une taille, je le prends en 48 et ouais. Il a une géométrie vraiment adaptée et proportionnelle à des petits gabarits comme moi.
Ouais. Bon, super. On reviendra sur plusieurs aspects techniques tout à l'heure, notamment le passage de la route et du double plateau à un monoplateau, surtout le Apex. Donc, tu nous réexpliqueras ça tout à l'heure, d'accord? Sorine. Bonjour, Sorine.
Oui, salut Richard.
Salut Richard. Alors, approche-toi bien de ton ordinateur, parce que comme tu n'as pas de micro, on ne va pas bien t'entendre. Mais faut quand même d'accord. Qu'on voit l'intégralité de ton vertueux visage.
D'accord. Ok. Salut tout le monde. Salut Richard. Comme tu as bien dit, c'était pas tout à fait mon premier 100 km en vélo, d'ailleurs, surtout en gravel. Mais c'était pas tout à fait loin parce que mon premier 100 km, ça date pas de longtemps. Du coup, j'ai fait mon premier, ça fait un mois, je pense, quelque chose comme ça.
Ouais.
Pour moi, c'était plus ou moins la pratique et ma pratique du vélo est basée sur un seul mot, en fait, c'est la découverte. Et Voilà, je me suis mis au gravel plus ou moins comme ça. J'étais VTTiste à la base. Mais bon, en VTT, c'est pas tout à fait de la découverte. On fait plutôt de technique. C'est plutôt de maîtrise de la machine, du pilotage. Et c'est ça qui a vraiment fait le déclic pour moi dans cette pratique du vélo, la découverte. Et en fait, plus qu'on roule, plus qu'on découvre. C'est ça, c'est en vérité. Et du coup, voilà, j'avais une idée de faire un tour dans une forêt, en fait, qui j'ai tracé, et ça faisait un peu plus de 100 km, 110 ou quelque chose comme ça. J'ai essayé plusieurs fois de le faire avant. J'ai jamais réussi, mais un petit matin, je me suis dit, tiens, je vais télécharger la trace et j'y vais aller. Je vais pas me poser de questions. Je vais rouler et c'est tout. Et en fait, dès qu'on simplifie un peu le truc, on peut dire que c'est facile. Mais bon, il y a beaucoup d'autres substrats, il y a beaucoup d'autres choses à tenir en compte quand on fait ce qu'on peut dire pour nous de la longue distance, même si cette mot longue est un peu subjectif. Mais voilà, l'idée c'est ça pour moi. Plus que je roule, plus que je découvre, et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Le kilométrage, en fait, c'est juste un chiffre, quoi. Plus qu'on prend de plaisir, plus facile que c'est.
Bien, bah Sorine, alors déjà bravo parce que t'as, je pense que tu vas tenir le record du monde de l'épisode le plus court, en fait, parce que là on va pouvoir s'arrêter, hein. Finalement, tu as parfaitement résumé en quelques phrases l'essence même du vélo, hein. Donc c'est un petit peu triste parce que donc bah, je vous ai dérangé pour rien en fait, hein. Surtout Aurélien qui n'a pas encore dit un mot, et finalement je vois pas pourquoi on lui demanderait son avis, parce que si c'est pour dire la même chose, on va encore perdre notre temps tous. Donc Louise, Aurélien, Sorine, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. À bientôt dans les chemins. Et puis n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, hein, la petite cloche, tout le bordel. Et puis voilà. Bon, Aurélien, à ton tour.
Bonjour.
Voilà,
Bonjour Richard.
Aurélien qui vit à côté de
Mais
son
bonjour à tous.
micro-ondes, le micro-ondes d'Aurélien tourne en permanence, hein, sachez-le.
Oui, c'est ça. Excusez-moi pour la piètre qualité du son.
Ce n'est pas grave.
Non, donc voilà, écoutez, bah en fait, on est potes avec Sorine. On était dans le même club VTT et on s'était jamais croisés, en fait. On se voyait par rapport aux trucs Strava, etc., etc.
Ouais.
Et là, arrivé le premier confinement, et après le post-confinement, on s'est contacté via les réseaux sociaux et dire, bah, tiens, voilà, on roule plus ou moins ensemble. Enfin, je pense qu'on a les mêmes stats, on devrait rouler ensemble, ce sera moins monotone, et blablabla. Donc, on a commencé à rouler en VTT, et après, on a commencé à se chauffer un peu pour faire du gravel, et puis voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, achat du premier gravel, pour moi c'était en novembre 2020, et puis bah, commencer à essayer, augmenter le nombre de kilomètres et tout ça. Et en janvier bah, de cette année, 2022, Soren me dit vas-y, il y a Naturist Bike à Angers, on s'inscrit à la 100 bornes. Bah, je lui dis, mais t'es un débile, mon gars, 100 bornes. Tu veux que je te laisse mes cuisses aux 60e bornes ou quoi là? Enfin, tu vois, comment ça se passe? Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi refuser l'invitation, enfin, pas l'invitation, mais pourquoi refuser le défi, quoi. Vas-y, on y va. On s'en fout, on verra bien. Voilà, on s'est chauffé comme ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé le gravel, et j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à passer des heures de selle plutôt que 2 heures et demie à en chier un peu dans du technique, à monter 5 grappettes, etc., etc., quoi. Enfin, faire chier dans le technique, façon de parler.
Oui, ça peut avoir un petit intérêt, mais
Donc voilà.
c'est pas la même chose, en effet.
Oui, bien sûr. Hein.
Ouais.
Je
Alors,
ouais,
je
pas
vais
du
vous
tout, non.
poser. Tu viens de dire un truc super intéressant, Aurélien. D'ailleurs, j'ai oublié. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Mince. Non, mais ça m'arrive aussi parce que moi aussi, des fois, je dis des trucs intéressants, mais je les dis, j'oublie de les, je m'en souviens. En fait, je les oublie avant de les dire. Donc, c'est complètement débile. Alors que toi, tu l'as dit. Ça existe et c'est simplement que moi aussi j'ai mauvaise mémoire. Tu as dit un truc intéressant. Ben voilà. Alors ça reviendra certainement, mais je suis vraiment désolé. J'ai une question pour tous les trois. Vous commencerez dans l'ordre que vous voulez. Est-ce que 100 km dans les chemins, ça représentait un challenge pour vous? Alors, du coup,
Ben,
dans
je
ces
vais
moments-là,
continuer à reprendre
personne.
dessus comme j'ai toujours le micro
Dans
on.
ces moments-là, personne n'ose commencer, hein, je sais
Et
bien. Bon, vas-y, Aurélien.
du coup, ouais, pour moi c'était vraiment un challenge en fait. Je voyais pas. Enfin, on roule dans le nord de la région parisienne, du côté de Senlis. Et on va pas dire que c'est plat, mais on va pas dire que c'est montagneux non plus. Mais il y a quand même. Enfin, je veux dire, quand on veut chercher du dénivelé, on arrive à en trouver.
Oui.
Et je m'étais dit, bah, 100 bornes de notre région, ça fait vite. Ça fait vite 1000 mètres de dénivelé positif, voire beaucoup plus.
Ouais.
Du coup, ah, bah, voilà ma maman. Super, impeccable. Bonjour Nicole. J'adore. C'est impeccable. Voilà. donc ça faisait vite 1000 mètres de D+, ou 2000 de
Hey,
D+, et enfin pas 2000, mais.
tu rougis, Aurélien, mais c'est pas grave.
C'est vrai? Ouais, bah je sais, ouais, mais c'est un peu les. Enfin bref.
C'est
Et
mignon,
on est en
ça, c'est
vacances, on est en vacances chez les
mignon.
parents, c'est mignon.
Oh là
Et du
là là
coup,
là. Est-ce que
donc
t'as
ouais,
fait...
mais on s'est
Est-ce
fait.
que t'as... Est-ce que ta mère t'a fait des crêpes à 4 heures?
Non, mais on ressort d'un repas de famille où on a quand même bien mangé comme des cochons, donc.
Ouais.
D'où le. Perrier.
D'où le
Bref.
Perrier pour des cuvées.
Ouais, c'est ça, parce qu'on n'est pas... On n'est pas naïf, hein. Tu sais, quand on mange beaucoup, c'est pas le Perrier qui va faire digérer. Le Perrier, c'est pour les
C'est
abus
ça.
d'alcool. Ça, on n'est pas des
Oui, bah, c'est
lapins.
un peu ça.
Voilà,
Et
on
bon,
n'est
je suis
pas...
originaire du nord de la France, donc du coup, on sait, enfin voilà, on sait ce que c'est, quoi. Enfin, vous savez ce que c'est, quoi.
Ah
Non,
bah,
bref, donc pour finir, ouais,
voilà.
donc ouais, pour finir la question, on va revenir quand même. Donc ouais, 100 bornes, pour moi, ça me paraissait un peu beaucoup, mais plutôt par rapport au dénivelé, plus que la distance, en fait. Et donc voilà, et bon, pour le coup, commencer à ranger, ou c'était une trace qui fait 350 ou 400 mètres de D+, franchement, ça faisait pas trop peur, parce que c'est ce qu'on fait, nous, en cherchant du D+, en 30 bornes, dans notre région, quoi.
Ouais.
En cherchant, en façon de parler, quoi.
D'accord. Louise, ça te faisait quoi de te dire, tiens, je change complètement de surface, je pars sur un terrain éventuellement que je ne connais pas, techniquement, ça peut, je ne sais pas où tu en es techniquement, sur le pilotage, etc. Ça, tu le sentais comment ce premier 100 gravel?
Bah, ce premier 100, je l'ai abordé de manière assez naïve et j'avoue assez en étant assez sûre de moi parce que bah, j'ai tout mon background sur route. Donc pour nous, un 100 km, c'est vraiment plus devenu un challenge. Surtout que là, on avait
Bien
fait
sûr.
un 200 avec mon club, on avait passé 8 heures sur la selle, etc. Et en fait, avant de venir à la Nature is Bike, j'avais fait seulement deux rides gravel d'une soixantaine de kilomètres. Donc là, j'ai pu rapidement me rendre compte que, bon, au niveau pilotage, j'étais plutôt à l'aise grâce à mes petites heures de VTT. Donc ça, c'était cool, j'avais quelques réflexes. Mais je suis vraiment arrivée en me disant, bon, allez, 100 km, c'est pas vraiment une distance qui me fait trop peur. Comme l'a dit Aurélien, j'ai regardé le D+, j'ai vu que c'était 400. Du coup, j'étais plutôt rassurée. Mais ouais, sur le coup, j'ai pris une bonne leçon d'humilité en commençant à être en difficulté au kilomètre 70. Et vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas fini un ride de vélo sur le mental. Et ouais, ça fait du bien, mais c'est vrai que sur le coup, j'en ai bavé à la fin.
Mais alors, qu'est-ce qui t'a fait aussi mal en fait? Qu'est-ce qui t'a fait mal pour te mettre dans le dur au bout de 70 km?
Bah en fait, quand on est sur le gravel, surtout qu'au début, la map était hyper plate, donc c'était bien roulant. J'étais avec un groupe qui était un peu mélangé entre débutants et aguerris. Du coup, on roulait pas mal sur le plat, on était facilement à 30. Et en fait, je me suis rendu compte que là, pendant 70 km, c'est 70 km où on est tout le temps en force, quoi. Même quand tu es dans les roues, tu bénéficies pas de l'aspiration comme quand tu es sur route où hop, d'un coup, tu moulines alors que tu es à 35 km/h. Là, tu tiens les 27-30, mais à chaque coup de pédale, tu appuies. Et ça nous a cramé parce que à partir du kilomètre 70, on a eu les difficultés, les singles, le dénivelé. Et moi, je suis pas très bonne en dénivelé en plus de base. Donc là, j'ai tout donné à la fin. À la fin, je regardais que la route devant moi, quoi. C'était chaud.
Un petit
À la fin,
détail
j'étais
technique
morte.
sur Oui, mais ça va, tu as survécu, ne t'inquiète
Oh,
pas. Sur ton
ouais. Ouais.
Apex, tu as quel grand plateau?
Je suis en 42, tu veux dire le dernier plateau de ma
Ouais.
cassette? Ouais, c'est du
Non, non,
42.
ton
Le
plateau,
premier, je crois que c'est du. Ah,
ton plateau, le
honnêtement,
monoplateau, c'est un combien?
je
C'est un
sais pas
38, un
trop.
40?
Ouais, je pense que c'est un
Ouais.
38.
D'accord.
Je crois que c'est ça, faudrait que je regarde.
Est-ce que quand tu roulais justement sur les premiers kilomètres en force, tu avais l'impression d'être vraiment en force et avoir du mal à trouver un braquet plus souple, plus confortable par rapport à la route? Ou est-ce que vraiment tu
Non,
avais l'impression d'être en
honnêtement.
force?
Bah en fait, je sentais que j'appuyais bien sur les pédales, mais comme c'était le début, j'étais en forme et c'est au moment où
Ça
il y a
allait.
où j'avais vraiment besoin de passer en force, bah, dans les difficultés à déniveler, etc., où je me suis rendu compte que je m'étais cramée sans vraiment m'en rendre compte parce que j'ai un peu l'habitude de quand même pousser même sur route, mais je pense que je me serais un peu plus économisée, ouais. Enfin, je pensais pas être
Ouais.
autant fatiguée au bout de 70 parce que j'avais jamais fait plus. Et c'est vrai que les derniers rides, au bout de 68-70 km, j'étais contente d'être arrivée.
Et toi, Sorine, ça s'est passé comment?
Ah, pour moi, la seule, si je peux dire ça comme ça, la seule difficulté que j'ai pu préconiser, c'était juste l'effet de rouler avec plusieurs personnes de plusieurs niveaux. Et dans l'idéal, parce que moi, je m'y connais un petit peu, je sais que dès qu'il y en a un qui pousse devant moi, je vais essayer de pousser aussi derrière lui. On va se jouer un petit peu comme ça. Et du coup, je pense que j'ai tombé un peu dans la même piège, bon, entre guillemets, comme Louise. Je me suis retrouvé à la tête d'un petit peloton au bout d'un moment, vers 35-40 km, quelque chose comme ça. Et du coup, ça a envoyé sévère. Je les sentais toujours derrière ma roue là. Je savais qu'au moindre erreur, ils vont me doubler. On s'est fait un peu des gamins, quoi. On a appuyé, on a appuyé, on a appuyé pendant, je sais pas, une bonne vingtaine de kilomètres. Au bout d'un moment, il y a Aurélien qui me rejoint et il me dit, mec, si on tient comme ça, j'y vais pas finir. Du coup, si tu as envie de jouer avec les garçons, on va jouer avec les garçons. Mais ça va pas le faire. Et moi, je me sentais bien pour le moment, sur le coup. C'était un peu l'adrénaline d'y aller un peu forte, on s'est joué un peu, on se doublait, on se redoublait. Mais du coup aussi, pour moi, vers les 70-80 bornes, je dis, oh là là, ça commence à tirer un peu dans les cuisses. Et je me suis vite rappelé que, ah, voilà, c'était ça. Mon petit jeu là avec les garçons vers les 50 km, bah là, je le paye. Et j'ai dû finir. Dans la roue d'Aurélien, qui m'a étonné complètement. Il était fraîche, il était parce qu'il a roulé tranquille, constamment, tout va bien. Et du coup, lui, il a fini beaucoup plus frais que moi. Et l'autre chose qui j'ai eu comme challenge un peu, c'est de m'éduquer un peu à tenir compte de l'alimentation et l'hydratation. Parce que c'est vrai, quand on passe quelques heures, quelques bonnes heures dans la selle, il faut très bien tenir ça en compte. Et moi, j'ai plutôt l'habitude, la mauvaise habitude de mettre dans le guidon et de foncer, d'y aller un peu sur le coup, sur la joie, de sortir et de pédaler. Et dès que je regarde mon compteur, ah bah tiens, je suis déjà à 45 km et j'ai pas touché ma gourde. Je dis, oula, ça va mal se finir.
Ouais.
Et c'est ça, qu'est-ce que j'essaie de faire, j'essaie encore de faire, et de me discipliner un peu vers ça, l'alimentation, l'hydratation et tout ça. Et voilà, c'est plus ou moins ça, qu'est-ce que j'ai eu comme challenge.
Alors, je vais On va donner la parole à Aurélien. Et la question suivante pour tous les trois, c'est est-ce que vous avez senti ou un petit peu mieux compris l'importance de la gestion de l'effort et de l'alimentation et de l'hydratation, comme vient de l'expliquer si bien Sorine, justement? Est-ce que vous avez saisi un petit peu l'importance que ça a et la manière avec laquelle on va taper plus rapidement dans le stock d'énergie, si on peut dire, comparativement à la route où justement on va pouvoir davantage s'économiser, jouer avec les braquets, jouer avec l'aspiration, alors que en tout terrain, on est toujours un petit peu toujours en prise et on est toujours sur un effort très vraiment soutenu. Enfin, en tout cas, si on a envie de faire un effort soutenu et que la gestion d'effort est hyper importante. Aurélien, toi qui l'as très bien fait manifestement, qu'est-ce que tu en penses?
Alors pour revenir donc notamment à l'événement Nature is Bike là, ouais, donc pour reprendre les termes de soirée, ouais, c'est vrai qu'au premier ravito on s'est pas arrêté parce qu'il était à 33 km et on s'est regardé, non j'ai pas faim, j'ai pas, enfin on avait de quoi dans les gourdes, on avait de quoi dans les sacoches au cas où, bon, 33 bornes, on dit vas-y on continue, on essaie une belle lancée, ça va bien quoi. Et donc c'est comme ça qu'on a recollé le fameux groupe où ça roulait vraiment très fort. Et donc c'est vrai qu'on s'est pris au jeu au début, on regardait les trucs et tout. Enfin, les compteurs, on se dit, putain, ça va bien. Chaque virage, c'était beaucoup de virages à 90, ça ressortait les mains sur les drops, on va dire, on relance et tout. C'est vrai que c'était grisant. Et en fait, moi, j'ai commencé à voir que. Non, mais c'est vrai que c'est grisant, tu ressors sur les drops, t'es content, t'en mets et tout, t'es bien, quoi. Et à un moment, j'ai dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas bu. Donc, je bois un coup, j'avais d'un truc isotonique, enfin, de la poudre dans les bidons, quoi. Et au moment où je relève, hein, donc j'arrête un peu l'effort, je bois un coup, enfin, l'effort, sans parler, quoi. Je bois un coup et je regarde, putain, ils m'ont mis 300 mètres, les mecs devant, là, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en fait, moi je dis bon, vas-y, je vais la recoller. Et je pousse. Et au plus je pousse, et en fait, je me rendais compte que enfin, j'arrivais pas à les rattraper. Et je vois Sorin au même moment qui se retourne et qui me dit. Et je le vois, je vois qu'il m'a vu, quoi. Et je dis, c'est pas possible, il va repartir, quoi. Et à ce moment-là, il a dit, ah bah c'est bon, le buddy, il est derrière, ça va, il est pas loin, je peux en remettre une cacahuète, quoi. Et t'es reparti. Donc voilà, et donc j'ai galéré à les recoller, et c'est comme ça que j'ai dit, bon, bah vas-y, il faut que je le dise, que moi je tiendrai pas l'effort, parce que je voyais le compteur, enfin je voyais les kilomètres avancés avec la moyenne, et je me suis dit, bah, c'est même pas la peine, enfin moi si je continue à ce rythme-là, je voyais plus en fait la fin des 100 bornes plutôt que l'instant présent, quoi. Mais j'ai toujours beaucoup bu sur le vélo, enfin je bois toujours pas mal, donc j'ai pas vraiment l'impression d'avoir dit, tiens, enfin de me forcer ou quoi que ce soit, c'est plutôt assez naturel, je pense. Pour moi, en tout cas, j'essaye de mettre la limite de finir un bidon en 1 heure en gros. Donc, j'essaie de regarder tous les 10 minutes, j'essaie de boire une gorgée. Je ne peux pas dire que je me force, mais je le fais quasiment naturellement, quoi. Et après, au deuxième ravito, bah, j'ai pris une barre et puis voilà, c'était fini, quoi. Mais j'ai pas vraiment senti le besoin non plus. J'avais pas faim quand je suis arrivé ou quoi que ce soit, quoi. Donc, voilà, c'était ça la question.
À midi avec tes parents, t'as fait pareil, un verre toutes les 10 minutes?
Ouais, c'est un peu la moyenne, ouais.
Ouais, je comprends que ce soit naturel, mais tu sais, y a un mot pour ça en fait. Il y a même des centres de traitement. Et je te présente Louise, hein, qui fait partie du corps médical, et je pense qu'elle pourra t'aider dans ton addiction. Hein, Louise?
Ah, d'accord, mais merci, Louise.
Oui, on pourra s'organiser une consultation entre deux rides. Comme ça, tu m'expliqueras aussi à quel
Ça
point, comment ça se fait que ce soit aussi naturel chez toi de boire et manger sur le vélo. Parce que pour moi, ça a toujours été un peu un challenge. Donc, je m'étais un peu renseignée, surtout quand j'avais fait des plus longues distances en route, où là, puisque à un moment, j'avais vraiment la tête qui tapait, quoi, par manque d'hydratation, manque de sel, etc. Et donc, j'ai repris ces réflexes que j'avais sur la route dans mes rides gravel. Ça a pas mal marché, surtout sur les premiers kilomètres roulants. Je regarde un peu les minutes passées, et puis tous les quarts d'heure, je bois. Toutes les 30 minutes, je mange un petit truc. Mais quand même, là, la variation de l'effort sur le gravel, je pense que je n'étais pas préparée à adapter ma nutrition, surtout que j'ai l'impression d'avoir un métabolisme qui est assez exigeant et qui demande de manger assez régulièrement sur le vélo par rapport à d'autres qui arrivent à vraiment enchaîner sur leurs réserves, là, comme des dromadaires. Mais moi, c'est plutôt l'inverse, il faut que j'ai pas mal d'apports. Et là, sur les derniers kilomètres où il y a eu les difficultés, le dénivelé, le fait d'avoir bu et mangé régulièrement, c'était pas mal. Mais je pense que c'était pas assez parce que j'ai vraiment senti un moment où j'étais au bord de la fringale. Donc, heureusement, avec les ravitaux, on faisait un peu le plein de nourriture et tout. Mais à un moment, ouais, ça m'est arrivé, je crois, on était vers le 80, 90e kilomètre. En plus, c'était le dénivelé, donc les kilomètres, ils passaient très lentement par rapport à ce que j'aurais aimé. Et du coup, ouais, il y a un moment où vraiment, c'était gel, barre, allez, il faut qu'on continue. Et il y a eu comme ça, ouais, un moment où j'ai mangé de manière un peu frénétique, genre là, si je mange pas tout ça, je pense que ça va pas aller. Et puis à la fin, j'avais quand même ce mal de crâne alors que j'avais pris un bidon d'isotonique que j'avais bu à moitié puis re-rempli d'eau. Donc du coup, j'avais quand même ça m'a il m'a quand même tenu pas mal de temps sur le ride. Mais ouais, en gravel, je pense que j'ai encore faut que je m'exerce encore là pour avoir la nutrition parfaite adaptée à la map et à la distance.
Ouais, c'est surtout la distance et le dénivelé qui fait la différence, et trouver les trucs qui plaisent, parce que sur la route, quand on vient de la route, on a ces vilaines habitudes, des bars, des gels, des boissons, machin. Mais on se rend compte que ça fait plus de mal que de bien, et que selon les produits, selon les marques, ouais, ça fait plus de mal que de bien. Et parfois de l'eau, quelques petits trucs bien choisis, des bananes, des dattes, des trucs comme ça marche extrêmement bien. Moi, j'ai mes petites recettes secrètes de sachets comme ça. Alors là, c'est la saveur velouté de poulet aromate. Et dans la
Ah ouais.
voiture, j'ai mon carton de poulet thaï. Et
OK.
du coup, je ne tourne qu'à ça pratiquement, et ça marche extrêmement bien. Et pour revenir sur l'exigence de ton métabolisme, bah, tu vas te rendre compte que plus tu vas allonger la distance, et moins tu vas avoir besoin de manger, que plus facilement tu vas te réguler, en fait. Tu vas facilement trouver ton équilibre. Et peut-être que tu es encore un petit peu comme nous les routiers. Encore un petit peu trop glucose et pas assez lipides. Mais
Ouais,
ça va très
sûrement.
très bien se passer. Sorine, ça a été. Oui, tu voulais finir sur quelque chose? Tu voulais ajouter quelque chose,
Non,
Louise?
non, 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 je disais oui, sûrement. Et puis aussi, bah, c'est adapter son alimentation au ride gravel. Bon, on le voit, les maps des rides gravel, elles sont comme ça, quoi. Donc l'alimentation, je pense qu'elle doit aussi un peu s'adapter et être moins millimétré entre guillemets comme sur la route où on peut manger tous les quarts d'heure de manière régulière quoi.
Ouais.
Je sais pas si vous faites
Ouais, et puis
des
c'est.
je sais pas si
Des
vous faites
quoi?
des accès de nourriture quand vous voyez que va y avoir des difficultés et que quand c'est plat on s'arrête de manger, je sais pas.
Ah bah non, c'est plutôt l'inverse, justement, en fait. Et comme Aurélien l'a très bien dit, c'est que. Et c'est ce que je dis à mes gars avant une épreuve, en tout cas ceux qui sont plutôt néophytes, c'est surtout ne vous laissez pas griser par le truc, ne vous laissez pas embarquer, un, par ceux qui sont stressés, et par après au départ, par ceux qui vont vouloir rouler vite, parce que généralement ceux qui partent très vite, bah, il y en a une bonne partie de ceux-là qu'on va ramasser aux 60, 70, complètement d'équerre. Et ça marche sur les plus longues distances, à 200, 250, 300, 280, tu ramasses les cadavres. Et pour ceux qui ont eu la sagesse de partir plus doucement, de manger régulièrement dès la première demi-heure, dès la première heure, et de pas faire des grosses relances de bâtard, comme disait Aurélien, avec les mains en bas du guidon, et tu relances à la Peter Sagan comme un dégénéré. Surtout quand t'as pas fait un entraînement spécifique avec un petit peu de fractionné avant, et que d'un coup tu dis à ton corps, tiens, on va faire des accélérations. Eh bah super, mais lui il tape à fond dans les réserves, donc à un moment donné le réservoir est vide. Donc c'est un peu comme faire des accélérations en ville. Tu te demandes pourquoi ton plein, bah, il se vide beaucoup plus vite que quand tu fais une allure régulière sur l'autoroute. C'est exactement le même principe. Et ça fait vraiment partie de l'expérience complète, de pas se laisser enflammer par les autres, de gérer son allure, et puis de laisser partir les plus foufous, et puis de les rattraper plus tard. Voilà. Sorine, toi qui avais un petit peu plus de bouteilles, tu t'es complètement fait griller?
Bah non, moi je pense qu'ici il y a toujours les deux écoles. Il y a l'école VTT comme tu viens de dire, il y a l'école route. Les VTT sont plutôt habitués, on va dire ça comme ça, de faire des gros poussées d'efforts sans trop s'alimenter, sans trop s'hydrater. Et de l'autre côté, il y a l'école routière dans laquelle on boit chaque 15 minutes un petit gorgé, on mange un petit truc chaque 30 bornes ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas une vérité absolue ni dans l'un ni dans l'autre. Surtout que la pratique du gravel, c'est un mélange des deux. Du coup, je pense comme la transmission, comme le freinage, comme la géométrie des vélos, c'est toujours un mix des deux. Et c'est ça qui fait la particularité, on va dire. Il faut très bien regarder la trace, si jamais elle est connue. Il faut bien regarder la trace, il faut voir un peu le profil du dénivelé. Et d'ici là, en se connaissant à soi-même, voir un peu, OK, donc j'y vais, ils sont où les ravitaux, comment je vais m'alimenter, il est où le profil dénivelé, il est plutôt vers le fond, comme c'était le cas à Nature's Bike. Et voilà, donc ça complique un peu, si tu vois ça comme ça complique un peu la tâche de s'alimenter. Mais c'est ça qui fait aussi le plaisir, quoi. C'est en pratique entre les deux, du coup c'est compliqué mais c'est beau. Et on peut toujours aussi vite se cramer comme tout, quoi, en faisant des relances. Surtout on a des vélos qui sont très capables sur la route. Nous, en venant de VTT, c'est très capable sur la route. Tu peux rouler très vite, en très belle moyenne, mais aussi tu brûles beaucoup plus de ressources. Et sur les parties VTT, si c'est un peu technique, c'est un peu aussi piégeant parce que tu brûles encore plus parce qu'il y a le pilotage, il y a des autres muscles, il y a les muscles du haut du corps qui rentrent en fonction. Et ça tape plus dans les côtes. Et malgré le kilométrage, tu brûles encore plus de ressources, mais du coup, tu rentres plus vite dans l'anaérobique, en fait. Tu rentres plus vite dans tes réserves. Et là, comme tu as dit, là, c'est une autre chose. Moi, je pense qu'il faut s'alimenter pour arriver à cet niveau-là. Parce que dès que tu es rentré dans la réserve, là c'est bien, là ça commence à se calmer un peu, tu n'as plus besoin de grand-chose parce que tout commence à se réguler un petit peu. Mais là il faut tenir compte de la taille de son réservoir, quoi. Parce que peut-être comme Louise, il va fonctionner sur ses réserves. Mais il n'y a que 10 litres d'essence dans le réservoir. Du coup, il faut qu'elle passe à la pompe vite fait. Et aussi, il y a nous, comme moi, comme Aurélien, on a un peu de réserve. C'est ça. Et est-ce que ça compte ou pas? Je sais pas. Mais de toute façon, je pense que ça aide plutôt.
Alors, Sorine, pour toute la partie muscles du haut du corps et traumatisme sur la partie du haut du corps, je t'invite à montrer ta carte de visite, Sorine, kinésithérapeute dans le nord de Paris, pour tous ceux qui seraient blessés et légèrement endoloris, comme ça tu pourras t'occuper d'eux. Ah non, non, mais là, ce soir, j'ai fait une réunion de praticiens experts, il n'y a que Aurélien, je ne sais pas ce qu'il fait. Tu fais quoi dans la vie, Aurélien?
Je suis mécanicien avion là.
Eh ben super, tu pourras t'occuper de mon vélo. Nickel.
Donc, ben voilà, parfait. C'est sûr que nos vélos, ils voient pas beaucoup les chopes. C'est déjà pas mal.
Alors, maintenant que je te tiens, tu as fait ton premier 100 km qui s'est extrêmement bien passé. Est-ce que ça te donne des idées pour le futur? Parce que, objectivement, tu as
Oui.
fait 24 de moyenne sur 100 km. Si à 100 km, tu avais fait le plein, tu t'arrêtes 5-10 minutes, tu bois un coup, tu manges, t'es nickel, tu te remets d'aplomb, tu roules encore 2 heures. À cette allure-là, tu fais 150 km. Tu roules encore 4 heures, tu arrives à ton premier 200 km gravel. Est-ce que ça t'a donné des idées? Alors ça sous-entend que tu es capable de
On
tenir
a.
ton allure pendant 4 heures encore, hein, sans t'écrouler comme un blaireau et te finir à 17 de moyenne.
En arrivant, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on voulait boire une bière déjà, parce qu'avec Sorin, parce que c'est important, l'hydratation. Et après, après trois gorgées, on s'est dit, bon, bah, ouais, pur amateur. Hein. Après trois gravel, je me suis dit, oh, en fait, je pourrais repartir pour une trentaine, une quarantaine. Je me sentais bien capable de faire ça. Alors après, plus, je sais pas. Mais en tout cas, je me sentais capable de le faire là, à l'instant T, oui. Et donc oui, ça me donne des idées là. En plus, j'ai vu que Gravelman maintenant, enfin les Gravelman Series proposaient enfin, pour citer eux, mais il y a plein d'autres événements qui font des séries de 120 km maintenant. Donc ça peut être pas mal aussi, ça, 120 bornes, mais surtout que avec beaucoup plus de dénivelé et beaucoup plus de technique, je pense.
Ouais.
Donc la moyenne sera beaucoup plus basse. Et
ouais.
Donc je
beaucoup
pense que ça
plus
fait plus
modeste,
de vraiment. Ça, ouais, c'est. Je pense que ça fait quand même pas mal d'heures de sel quand t'es débutant comme moi. Je pense que bon là du coup ça a été fait en 4h20 le Grand Naturist Bike, mais je pense que les 120 bornes des Gravelman Series, je pense que c'est plutôt 5-6 heures facile. Donc je pense que ça peut être une autre épreuve un peu sympa pour s'évaluer et voir d'autres difficultés, quoi. Pas forcément sur la distance, mais sur le D+ surtout et sur le technique.
Ouais. Bah, tu l'as parfaitement résumé encore une fois, c'est que quand on dit 100 km, 100 km, 200, 300, ça veut rien dire en fait. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est tenir compte, du fameux triangle magique distance, dénivelé et temps sur la selle. Et quand tu prends en fait ça en compte, tu peux beaucoup plus moduler tes trucs et par exemple te faire que 50 km mais avec 1500 de dénivelé. Ou alors le 200 km de Orléans en début de saison au mois de mars, il y a 700 mètres de dénivelé sur 200 km, c'est tout plat, c'est plat comme la main. Donc ça change vraiment beaucoup les choses. Et en fait, le plus important, c'est de calculer les heures de selle et le dénivelé. Et le kilométrage est une conséquence, mais le plus intéressant, ce sont les heures que tu passes sur la selle et le dénivelé que tu fais avec. Parce qu'au bout du compte, 200 km, si tu arrives à la voiture ou à la maison avec 700 de dénivelé au bout de 200 km, bah à la limite, vaut mieux en faire que 80, mais 80 qui te démontent la tronche. Ça sera beaucoup plus intéressant et en plus, vous travaillerez certainement beaucoup plus les petits à-coups et les petits changements de rythme incessants qui ont fait visiblement très très mal à Louise. Et ça, c'est bien plus intéressant que de se mettre sur une allure au train et d'attendre que ça passe. Parce que le jour où tu tombes dans de la caillasse et tout, oh, tu te crames la tronche en 2-2. C'est radical. Donc, pour Aurélien, c'est un Gravelman 120.
Ouais, peut-être. Ou peut-être autour d'autres choses. Parce que c'est les trucs que j'ai vus là dernièrement. Mais sinon, il y a plein d'autres événements aussi à 150 bornes, enfin 150 km. Et pour revenir par rapport au Naturist Bike. Et ben moi, on va dire que j'étais épaté par les premiers 50 ou 60 bornes où c'était vraiment du plat, de la belle piste, mais vraiment de la belle piste roulante où enfin, c'est facile, quoi. Pour nous, c'est comme de la route. Et là où moi, j'ai limite pris le plus de plaisir, c'était sur les 40 derniers où justement tu commençais à rentrer un peu plus dans le dur, dans le technique, où c'est là où c'était plus les terrains qu'on a l'habitude de pratiquer avec Sorin.
Ouais. En septembre.
Après, comme on dit, enfin, il y a.
Ouais. Oui, vas-y, Aurélien, termine, excuse-moi.
Non, non, mais c'était ça, c'était que parce que c'est ce type de terrain-là qu'on a l'habitude de rouler, donc forcément on prend beaucoup plus de plaisir à rouler sur ce qu'on connaît.
Bien sûr. Du coup, pour tous les trois, suggestions, alors je ne sais pas encore si ça va être à nouveau organisé, mais en septembre, il y a un festival à Jablines, donc au nord de Paris, et il y a un petit 100 km, peut-être qu'il y aura d'autres distances, je ne sais pas, il faudrait voir avec mes estimés collègues de Vélo Vert, mais en tout cas, ouais, c'était très sympa. L'année dernière, on s'est fendu la poire, on s'est fait un long, long poussage dans les orties et les épines le long d'un canal, c'était super. On est reparti, on pissait
tu
le sang, c'était super.
Tu parles du festival qui s'appelle Vélo en Grand?
Exactement, j'avais oublié le nom, merci Louise. Vélo en Grand, exactement.
Ouais.
Superbe organisation, superbe trace.
Mais nous, on a roulé sur un ride gravel à Paris avec Julien qui participait à l'organisation et il nous a dit que malheureusement, ce ne serait pas renouvelé cette année. Donc, je ne sais pas, a priori.
Julien, un grand chauve avec les yeux clairs.
Oui, qui travaille chez Vélo Vert.
Julien, oui.
Vélo Vert Magazine.
Écoute, Julien... Bravo pour ta trace, je t'avais déjà chaudement félicité, mais elle était géniale ta trace, c'est bien dommage si tu refais pas. Et toi Louise, prochain délire, prochain défi.
Bah, comme,
parce que là 100 km ça va bien.
Ouais, bah je sais pas parce que quand même je me referais bien un 100 pour maîtriser cette distance parce que là c'est clairement la distance qui m'a maîtrisée donc inverser le rapport. Mais comme
Ouais.
tu l'as dit, je pense qu'en gravel c'est pas une question de kilomètres. Autant en route il y a des vrais challenges de distance, mais autant en gravel ça dépend vraiment du profil de la map, si c'est des singles, si c'est du gravier, de la terre, des plus rocailleux, etc. Et ça me dérangerait pas. Enfin, j'ai pas du tout d'objectif de distance pour l'instant dans cette discipline. Plutôt de découvrir des nouveaux terrains, de la nouvelle technique, etc. Donc je sais pas, j'ai pas vraiment spoté de nouvel événements. Là pour septembre ou quoi, mais voilà, j'avoue, j'ai pas encore d'objectif défini. Je m'amuse beaucoup, beaucoup dans les singles, que ce soit juste voilà, slalomer entre les arbres sur du relativement plat ou même monter puis descendre. Je me suis pas mal amusée en descente parce que, bah, comme je l'avais dit, j'avais un peu essayé le vélo de descente au Canada et j'aime bien ces moments où bah, faut vraiment contrôler son cerveau, la peur qui nous dit non, j'ai envie de freiner, etc. Et puis bah, la ride qui te dit non, mais lâche les freins, quoi. Du coup, lâche les freins et c'est avec la vitesse que ça va passer. Et ça, c'est super drôle là. Enfin, quand on était, j'ai pas mal roulé. On était un groupe de filles et de garçons. Et puis, bah, c'était les filles qui étaient un peu plus débutantes sur ces terrains-là. Et entre meufs, on était là. Vas-y, lâche les breaks, ça passe, ça passe. Et puis finalement, c'est comme ça que ça passe, quoi, parce que c'est pas en étant à deux à l'heure, en se faisant secouer par les racines qu'on arrive à bien passer la ride. Mais ouais, voilà, c'est sur ces terrains que c'est ces terrains-là que j'ai envie de plus découvrir.
Mais alors Louise, je pense que ce que tu viens de dire, alors je pourrais pas l'encadrer parce que c'est de l'audio, mais bon, n'empêche que. Mais t'as dit le truc le plus important quasiment du tout terrain, c'est la vitesse qui nous sauve les miches à chaque fois. La boue, les cailloux, tout, n'importe quoi, c'est la vitesse qui fait. Passer à deux à l'heure sur des petites vibrations de tracteur, sur des cailloux, on se fait secouer la gueule, c'est la vitesse qui fait qu'on s'en sort à tous les coups. Bravo Louise.
Ben, merci.
Je l'aurais pas mieux dit que toi.
Ah, c'est cool.
Bon bah voilà, du coup ça lui a coupé le sifflet. Mince alors, j'espérais qu'elle renchérisse un petit peu, tu vois, qu'elle nous fasse une démonstration de technique et une masterclass sur le lâchage de breaks. Eh ben non, voilà,
Ouais.
je suis désolé.
Non, mais c'est vraiment le moment où je me rends compte que je fais quelque chose qui va vraiment à l'inverse de ce que mon cerveau avait prévu de faire. Et c'est marrant comme sensation, je trouve, de se dire, enfin, je sais pas, on est vraiment dans l'action. Et puis, c'est aussi là la technique, parce qu'il y a des mouvements qui sont naturels, de pilotage, etc. Mais enfin, pour moi, la technique, et quand on applique des règles, quand vraiment notre cerveau nous dit OK, là, la technique, c'est lâcher les breaks ou, je sais pas, vraiment trouver la bonne trace entre les racines au lieu de foncer tête baissée. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la pratique du tout-terrain, pas du VTT, mais du tout-terrain avec le gravel ou d'autres vélos. Donc voilà, c'est très chouette comme moment.
Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça, moi? Sorine, voilà, hop. Moi, je m'en lave les mains, hein, j'ai plus rien à dire.
Bah moi, même si je rêve sur des épreuves comme les Badlands ou le Desertus Baikus ou même la Race Across France ou quelque chose comme ça, si je veux rester un peu plus planté sur terre, et c'est même qu'est-ce que j'ai discuté avec Aurélien dans la voiture. Il faut qu'on commence à penser un peu à faire des micro-aventures dans l'idée qu'on parte vendredi soir, exactement comme on a fait pour rejoindre Angers. On monte sur les vélos vendredi soir, On file vers un petit endroit où on se pose, soit en tente, soit on trouve une espèce de petit B&B, peu importe, voilà. On fait un petit barbecue, on fait un petit apéro, on dorme et on se retourne l'autre jour. Mais au lever du jour, comme ça, on a manqué de notre paysage familial un tout petit peu. Nous, on a fait notre kiff. Et tout le monde est content. Et du coup, pourquoi pas aussi rallonger un peu les distances. Moi aussi, j'aimerais bien faire dans l'idée de 150, voire peut-être 200 km d'entrée, mais sur plusieurs jours. Voir un peu comment ça se passe. Où est la limite? Si jamais je pousse jusqu'à 200 bornes dans un jour. Qu'est-ce que c'est? Je trouve que c'est un peu faisable quand on a toute la journée juste à faire ça, quoi. Et du coup, est-ce que le lendemain, on a encore envie de monter sur le vélo? Comment ça se passe au bout de 50 km, donc au bout de 250 en totalité? Comment ça se passe? Est-ce que ça devient fluide? Est-ce qu'il y a une espèce de pic et après ça redescend? Il y a toujours le même kiff après beaucoup de kilomètres. Oh, c'est juste de l'usure. C'est ça ce que j'ai envie de voir. Jusqu'à là, sur les choses qu'on a fait, on a pris du plaisir. Ça, c'est vrai et on peut pas changer ça. Mais est-ce que ce plaisir a un bout? Comme tout, quoi. Est-ce que à fin d'un moment, ça devient de la souffrance, ça devient juste l'idée de tourner les jambes et plus avoir envie de faire ça. C'est ça, plus ou moins, qu'est-ce que je veux découvrir, en fait. Si à un moment donné, on prend plus de plaisir, c'est juste l'effet de finir. Je veux que ça se finisse et après, je veux plus voir mon vélo pendant un mois, quoi, quelque chose comme ça. Même si je sais bien qu'il y a des petites pensées comme ça qui passent dans la tête, mais au bout de 2 jours, allez, je vais me faire un petit tour. Tu la prends du garage. Allez, on va rouler un petit peu. C'est toujours comme ça. Il y a peut-être pas un mémoire pour les choses négatives, mais c'est ça ce que je veux découvrir, en fait.
Alors, je vais vous faire une confidence.
Alors.
Je suis ravi de vous avoir tous les trois. Parce que c'est quel jour? Le vendredi, quand je suis reparti de Angers, que Aurélien m'a sauté dessus, sachez qu'il m'a plaqué au sol hein, quand même. Hein. Il est descendu de son vélo, il l'a jeté par terre, il m'a sauté dessus, il m'a embrassé sur les deux joues. Et il m'a dit, Richard, si tu fais encore un seul épisode, je te casse la gueule. Bon, voilà. Et après, j'ai rencontré Sorine. Et le lendemain, j'y suis retourné. J'ai rencontré Louise qui faisait installer de nouveaux pneus. Et je suis vraiment ravi de cette intuition de vous avoir invité tous les trois parce que je veux vraiment vous expliquer vraiment l'essence même du vélo et pas seulement du gravel ou du bikepacking, mais vraiment l'essence même du vélo dans ce qu'il a de plus pur et dans ce qui est réellement la passion et l'amour du vélo. Donc je suis vraiment vraiment ravi de vous avoir tous les trois. Et j'aimerais bien qu'on aborde un sujet délicat qui est, d'accord, j'aimerais bien allonger la distance, j'aimerais bien faire des trucs de malade, j'aimerais bien faire des Ertus ou Badlands, mais j'ai pas le temps. Alors comment vous vous organisez pour rouler? Comment vous faites? Ça m'intéresse. Aurélien.
Alors c'est vraiment compliqué de mon côté parce que comme j'ai dit, je suis mécanicien avion et donc j'ai pas du tout d'horaire fixe. Je bosse en moyenne un week-end sur trois. Ma compagne est infirmière aussi et d'ailleurs je la remercie parce que du coup on fait pas mal de sacrifices. Je casse un peu la vie de famille pour pouvoir rouler de temps en temps. Mais donc elle fait un week-end sur trois aussi. Donc déjà on n'a qu'un week-end sur trois en commun donc on a un petit garçon, Maxence, et du coup il faut bien le garder quand madame travaille ou quand, enfin, etc. Donc les week-ends c'est un peu compliqué. Donc souvent c'est le dimanche matin, un peu la sortie du dimanche matin avec Sorine. Mais sinon c'est en semaine quand mes horaires le permettent. C'est on se fait des after work, on vous dit des faisait Blabla Ride avec Sorine, on se voit à 18h, là, c'est un autre petit parking, et puis on part rouler 1 ou 2 heures dans la forêt. Et en hiver, je fais un peu d'home trainer, je me lève un peu plus tôt le matin et je vais pédaler une demi-heure, trois quarts d'heure sur l'home trainer, etc., etc. Et puis voilà, sinon, bah, c'est forcément empiéter sur la vie de famille et faire des choses que tu peux pas faire forcément, du coup, que tu prends du retard ailleurs, quoi. Ouais. Donc c'est pas forcément facile de mon côté.
Ouais. Ouais. Louise, toi aussi tu as un emploi du temps bien chargé, je suppose.
Oui, moi aussi j'ai un emploi du temps assez chargé. La semaine c'est un peu compliqué, surtout qu'en ce moment je suis donc interne en médecine générale et je suis partagée entre deux cabinets qui sont en région parisienne, donc en gros à 45 minutes de chez moi, et je termine vers 19h30 le soir. Il y en a un qui est à Colombes, donc c'est, j'y vais en commute, quoi, donc ça me fait ça me fait une heure de vélo dans la journée quand j'y vais, mais bon, c'est une heure de vélo assez cool, quoi. C'est pas allure sportive, ça me fait pas faire des exercices, et en plus le soir j'avoue que je suis un peu cramée de la journée, j'ai pas trop la détermination d'aller au polygone comme beaucoup de mes amis, mais du coup, donc moi je fais partie d'une association et aussi d'un club de vélo qui s'appelle les Watts sur Paris, et ça, bah, ça me motive bien à rouler au moins une fois par week-end. On fait une sortie plus ou moins longue, quoi. Mais c'est vrai que quand je pense à des courses d'ultra qui font envie, parce que je vois pas mal de connaissances ou d'amis qui accomplissent ça, et ça a l'air vraiment, vraiment satisfaisant. Mais c'est vrai que là, derrière, j'ai conscience qu'il y a une préparation qui est assez exigeante. Et pour l'instant, entre ma vie professionnelle, ma vie perso et ma vie de vélo, parce que oui, je trouve qu'il y a vraiment les deux. Enfin, j'ai pas les mêmes potes en vélo que dans ma vie personnelle. Et ouais, pour l'instant, c'est un peu compliqué d'accorder une place plus importante au vélo que celle que je lui accorde déjà. Donc, voilà, une sortie longue le week-end, un peu sportive, quoi.
Combien de temps la sortie longue un peu sportive?
En moyenne, je pense qu'on fait des sorties entre 70 et 100 km en fonction du dénivelé. Donc en gros, c'est 4 heures, quoi, c'est une demi-journée. Et après, comme j'ai raconté tout à l'heure, on a fait avec le club la BRM des 200. Donc là, ça nous a pris la journée. Et voilà.
Donc tu roules le samedi ou le dimanche?
Voilà, le samedi ou le dimanche. Parfois les deux, mais c'est assez exceptionnel parce que j'aime bien aussi un peu me reposer le week-end.
Ok, cool. Sorine, tu fais comment toi?
Moi, avec mes trois enfants, c'est trois.
Trois.
Du coup, c'est bien compliqué. Mais pour te dire comme ça, la journée typique, le matin, il n'y a pas question, dans le week-end, je veux dire. Et vers l'après-midi, comme ça, il y en a un qui va faire dodo. Après, moi, je commence à penser quel cuissard je mets, je vérifie la pression des pneus et tout ça. Après, il y a le deuxième qui va se coucher. Du coup, la maison devient plus tranquille. Déjà, je m'habille et tout. J'ai juste fait un dernier coup d'oreille, juste pour entendre si jamais il n'y a aucun bruit. Et là, j'y vais. Et ma femme, elle sait, quand tout le monde commence à se réveiller et tout, ça commence à être un peu déjà aggloméré dans la maison. Elle me passe un coup de fil. J'essaie de faire mes boucles. De façon que à tout moment je peux couper et redescendre à la maison, donc à vrai dire je suis pas plus de 30 minutes de rentrer à la maison au cas où.
Ouais.
Mais sinon j'essaie aussi de pas rester plus de 2, allez peut-être 3 heures Vers midi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai plein d'amis, j'ai plein de collègues du club qui me disent: Ah, bah tiens, t'as fait une sortie, bah pourquoi tu m'as pas dit et tout ça, on aurait pu rouler ensemble et tout. Je dis: Écoute, moi je pars, j'ai pas d'heure. Je peux pas te dire: Voilà, à 13 h, on se voit à tel endroit et on va rouler ensemble. C'est impossible parce que si ça se trouve à 13 h, il y a encore du chaos dans nos séjours. Et je sais pas. Donc il faut que j'attende tranquillement que tout le monde se couche, que toute l'atmosphère se calme. Je vais rouler. Dès qu'il y a un souci, il y a madame qui m'appelle, je rentre. Mais malgré ça, j'arrive à faire mes petits 5 000-6 000 km par an. Et des fois, j'arrive à sortir aussi le dimanche. Si jamais je sors à 5 h du matin, voire plus tôt, si j'ai envie de faire une sortie plus longue, je sors vers 5-6 h du matin au lever du jour. Et du coup, jusqu'à les enfants se réveillent et tout ça, c'est déjà 9 h, 9 h et quelques. J'ai déjà 80 bornes sous les jambes. Et à la limite, s'il faut que je rentre, c'est déjà bien. Pour en sortir dimanche, c'est déjà bien. Et sinon, c'est plutôt comme ça. Dans la semaine, bon, comme Aurélien disait, on se fait de temps en temps notre petite sortie blabla. Mais ça aussi, il faut voir si les enfants sont bien. Il y a beaucoup de variables dans nos sorties. Voilà. Avec les enfants, on ne sait jamais s'il y en a un qui est malade, il y a toujours quelque chose qui se passe. Du coup, c'est pas rare que Aurélien m'attend dans le parking 30 minutes parce que je ne peux pas sortir. Soit il y a des bouchons à la sortie de Paris, soit X, Y, Z, telle raison. Soit sinon, c'est moi qui. Bon, mais tout se passe dans la joie et bonne humeur, quoi. Comme on dit. Et sinon, c'est comme ça. J'essaie de m'arranger le plus possible. Comme ça, je suis le moins absent dans le paysage. Mais quand même, j'ai une très bonne compréhension de la part de madame qui sait que ça me plaît. C'est mon kiff. Et du coup, elle m'appelle vraiment qu'il faut que je rentre quand c'est il faut vraiment que je rentre. Elle peut pas faire face. Je pense que tu peux raisonner dans qu'est-ce que j'ai dit, Richard, aussi.
Oh non, mais alors, mais attends, oh là là, moi j'en ai que deux, donc déjà respect parce que toi t'en as trois et jamais je n'en aurai trois, alors là je peux te dire que c'est bon. Là ça va, j'ai mon compte, hein. Deux ça me suffit largement. Donc sur le côté organisation pour le week-end, oui, je vous comprends totalement. Moi, j'ai mis au moins au point une petite méthode qui est de me lever à 5 h du mat le week-end quand j'ai besoin d'aller rouler, de faire la sieste l'après-midi avec le petit garçon, parce que lui, comme il a 2 ans et 3 mois, il fait encore la sieste. Donc j'arrive à faire une petite sieste et quand le soir ils sont couchés tous les deux, je repars. Et ça, je le fais aussi en semaine. Par exemple, le mardi, je vais rouler un petit peu en journée, le mercredi matin aussi, sieste l'après-midi avec le petit garçon, parce que je ne travaille pas le mercredi après-midi, je m'occupe du garçon. Et donc, je fais la sieste. On s'endort en regardant Harry Potter. Et le soir, je retourne rouler quand ils sont endormis tous les deux. Donc là, en été, c'est hyper agréable, parce qu'en plus, je pars à 21 h, donc il fait encore à peu près jour, mais cet hiver, c'était moins agréable, mais ça va quand même. Mais là, c'est vrai que sortir à la frontale et attendre petit à petit qu'il fasse vraiment nuit pour allumer le phare à l'avant, c'est vraiment cool. Par exemple, la sortie de mardi, où je suis parti à 18 h avec deux copains, et j'ai fini à 22 h 30 ou 23 h à la frontale, parce que j'avais pas l'éclairage à l'avant, c'était vraiment cool. C'est vraiment cool. Et là, quand les enfants dorment, on risque rien, quoi. Ils sont assez grands, ils se réveillent pas, donc ça se passe très très bien. Et ça permet d'allonger entre le home trainer et les sorties nocturnes, ça permet de bien rouler. Voilà. Aurélien, t'as quoi comme home trainer, toi?
J'ai un petit entraîneur un peu connecté là, mais à rouleau, un taxe, Vortex, quelque chose comme ça, ouais.
Ouais, super.
C'est de ça, ouais.
Bah,
ouais,
c'est très très
c'est pas
bien.
mal, hein.
C'est très très bien. Qu'est-ce que tu arriveras à changer justement? Tu crois que tu pourrais en faire un petit peu plus? Tu arriveras à modifier quelques petits trucs d'organisation? Ou est-ce que ça va comme ça en fait? Parce que on baigne dans. On regarde sur Instagram, on voit des trucs, des gens qui font des trucs de dingue. On écoute des podcasts à la con avec des gens surhumains qui font des trucs super.
Ouais.
Mais nous, on n'est pas surhumains et on n'est pas tous les jours super. Est-ce que ça te fait envie ou est-ce que tu es bien comme ça, au bout du compte?
Alors, c'est un peu, ça dépend de quel point de vue tu regardes, parce que bah forcément, comme tu dis, les podcasts, les réseaux sociaux, etc., ça te donne tout le temps envie de rouler, t'as tout le temps envie de mettre ton cuissard et de te barrer. Après, je suis tellement bien aussi à regarder mon garçon et me marrer avec lui et jouer, enfin, tu vois, donc c'est. Voilà, je suis bien sur le vélo comme je suis extrêmement bien aussi avec ma famille, quoi. Donc, enfin, dans le foyer. Après, j'aimerais bien en faire un peu plus parce que, en plus de me faire du bien sur le vélo, parce que c'est un sport que j'aime, bah, ça me fait du bien aussi parce que bon, voilà, je suis un peu costaud, donc ça ne peut pas me faire de mal de bouger un peu. Et voilà. Donc, moi, je pense que je vais essayer quand mes horaires le permettent, parce que c'est toujours pareil, quand tu changes toujours d'horaire de matin, de soir, etc., je veux dire, ça tire un peu plus sur le corps aussi. Mettons, quand je vais être en horaire administratif, ça m'arrive, c'est de. Bah, quand ma compagne, elle, part bosser à l'hôpital, bah, c'est que je me réveille au même moment qu'elle, et comme toi, et puis bah, je me fais un peu souffrance sur le maintenant, 30-40 minutes, et puis. Voilà, peut-être quand ta journée commence un peu plus tôt, mais ça te permet de pourrouler aussi, pendant que le garçon dort. Et voilà, et après, ouais, l'idée de rouler la nuit, ça, on en fait quelques-uns de temps en temps avec Sorine, mais c'est vrai que c'est pas régulier. Et c'est peut-être la solution, ou aussi, on en avait parlé vite fait ensemble le vendredi soir à Nature is Back, c'est peut-être la solution, là, j'avais entendu dans tes podcasts, du flash packing, là, tu
Ouais,
pars un samedi soir quand la maison, enfin quand tout le monde fait dodo, entre guillemets, et puis bah, tu pars une petite nuit, là, tu te fais 2-3 heures de roulage, tu dors 3-4 heures, tu reviens le lendemain, c'est comme si tu n'étais pas parti, tu as pris ton kiff, tu vis un peu dans un autre monde, et puis c'est pas mal, quoi. C'est plein d'endorphines pour ta journée, donc ta journée, elle commence forcément bien.
c'est une super idée ce que Sorine avait émis comme hypothèse, et c'est non seulement ça te permet d'enquiller rapidement 8 heures de vélo, de s'aérer un petit peu, c'est une super idée. Vraiment, c'est une super idée.
Donc ouais, je
Et
pense que c'est quelque
toi?
chose à travailler. Oh, pardon.
Non, non, mais non, vas-y, non, non.
Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose à essayer de bosser, ça, à bosser, de travailler, essayer de faire, essayer de moins de se débloquer et le faire, quoi. Peut-être pas forcément dormir à l'extérieur tout de suite, mais rien que de partir un samedi soir ou un vendredi soir à 22 h et puis bah, rouler et puis tu rentres qu'à 2 h du mat, etc. Ça peut être un
Bah
truc à essayer.
ça se fait tout seul, hein. Il n'y a pas besoin d'emmener le barda avec le bivy et tout.
Oui, bien sûr.
Tu pars rouler, tu fais 4 heures et puis voilà. Alors les premières, elles sont bizarres parce que tu. Surtout chez vous, enfin moi ça m'arrive aussi un petit peu autour de Chartres, on se fait doubler par les voitures et des fois il y en a qui ouvrent la fenêtre et qui disent mais putain mais qu'est-ce que tu fous là, rentre chez toi connard. Mais non, c'est juste que. Il est 23 h, effectivement, c'est pas forcément super habituel de voir des gens à vélo à 23 h ou à minuit. Mais après, bon, si les gens sont coincés dans leur tête, on peut rien pour eux. Mais pour nous, puis si un jour vous voulez faire un truc vraiment plus long, rouler à 23 h ou à minuit, ça sera la routine. Donc à un moment donné, vaut mieux s'y mettre. Louise, t'es bien comme ça ou tu veux faire plus?
Du coup, moi honnêtement, j'ai eu un peu un hiver difficile et là, avec les beaux jours, j'étais sur une phase de reprise, réappropriation de ma pratique de vélo et je suis hyper contente de ce que je fais en ce moment. Je suis d'accord qu'avec les podcasts, les comptes Instagram, on peut rapidement ressentir une certaine frustration parce que on se dit bah pourquoi pas moi et puis après quand on se dit pourquoi pas moi on voit tout ce que ça implique et le fait de pas pouvoir par exemple s'entraîner assez pour pouvoir faire un ultra qu'on pourrait faire bah ça peut être frustrant mais il y a plein de projets de personnes que j'admire mais que je trouve surtout inspirantes quoi. Ça me donne pas forcément envie de le faire dans l'immédiat. Mais enfin, je sais pas, là j'ai plus, je suis à la recherche du plaisir, que ce soit sur des rides rapides ou plutôt des rides plus lents, comme le suggérait Sorine, faire un 200 km, mais par exemple sur plusieurs jours pour profiter de l'aventure le temps d'un week-end et pas se donner forcément l'objectif de le faire le temps que le soleil brille encore. Donc, pour l'instant, je vois que je pourrais peut-être rouler plus quand je regarde un peu passer mes amis qui, pour le coup, eux, en after work, ça roule assez régulièrement. Mais je suis bien comme ça. J'arrive à faire mes objectifs, c'est-à-dire prendre du plaisir. Enfin, voilà. Redécouvrir d'autres disciplines à vélo, d'autres paysages, etc.
Une femme épanouie, donc, c'est
Claire.
magnifique. Sorine?
Moi, j'ai pas. Je pense pas que j'ai forcément envie de faire plus en chiffres, quoi. Le nombre de kilomètres, oui, je le regarde pas forcément. Je l'ai sous Strava, j'ai mes totales et tout ça. Mais. Là où je veux faire plus, c'est plus d'événements, peut-être plus de choses un peu plus à plusieurs, plus pas tout à fait social, parce que ça, là, on rentre encore une fois dans la discussion qui t'a itéré avec Insta et tout le bazar. Mais rouler plus avec des gens. Parce que jusqu'à là, comme je viens de dire, mon programme avec les enfants et tout ne me permet pas forcément de rouler avec quelqu'un. Je prends énormément de plaisir de rouler avec Aurélien, d'échanger un petit peu. C'est vrai que les sorties sont complètement différentes. Quand tu roules avec quelqu'un, tu peux te marrer dans quelque chose. T'es pas toute seule, quoi. Et en plus, il y a pas ça derrière la tête. Mais si jamais ça m'arrive quelque chose, j'ai qui, je suis où, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt sur ça que j'aimerais bien plusser, si je peux dire comme ça. Rouler à plusieurs, former un espèce de petit groupe ici dans le coin, pourquoi pas. Moi, je suis plus ou moins le seul dans mon club à rouler en gravel. Tous sont soit VTT, soit route, soit les deux. Mais petit à petit, il y a des petits oiseaux vers mes yeux. Ah, bah tiens, c'est chouette ton vélo. Bah, tu fais quoi avec? Bah, je fais ça avec. Ah, bah, ça c'est pas mal. Ah, bah, du coup, ouais. Il y a des toujours comme ça. Et c'est ça. Je suis sûr que plus le temps qui passe, plus l'aspect famille change, les enfants grandissent, tout se met en place tout seul. C'est pour ça que je ne veux pas forcément faire des efforts à le pousser dans la place, les petites pièces de puzzle qui doivent se réunir pour pouvoir sortir à vélo. Je les laisse comme ça, c'est très bien. Et en plus, je pense à, je prends beaucoup plus de plaisir. Quand toutes les conditions sont réunies, puisque je peux sortir à vélo, même si c'est pour 100 bornes, si c'est pour 20 km, peu importe, que de partir de la maison comme ça, ah bah tiens, il faut que je sorte à vélo. Ça me. Non. Du coup, surtout ça, prendre du plaisir, pas regarder le compteur. Et ça, discuter, effectivement discuter. On a fait des sorties avec Aurélien. Il pleuvait, il y avait des tempêtes, mais on a sorti quand même parce qu'on a dit qu'on sorte. C'était ça. Et plusieurs fois, on s'est posé la question, comme tu disais, il faisait nuit, il faisait froid, mais qu'est-ce qu'on fout là? Mais c'est ça le kiff. C'est là. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est pas tout à fait en question, c'est en rhétorique, quoi. Qu'est-ce qu'on fout là? On rigole, c'est ça. On fait ça, quoi. Et c'est bien.
Moi, je me rends compte que je pourrais laisser Sorine animer les prochains épisodes du podcast. Et je me dis que ça serait vachement plus intéressant avec Sorine, en fait. T'en penses quoi, Sorin? T'es pas à la recherche d'un deuxième emploi par hasard?
Bah non, pas forcément, tu sais, j'ai même pensé, il faut, j'ai plein d'idées, je suis habitué par le bias de mon travail d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, et même si c'est des choses un peu plus compliquées, qu'est-ce qui se passe dans l'articulation, dans le poumon, ou choses comme ça, qui sont très médicales à la base, je me suis formé plutôt à simplifier les choses. Et je pense que ça a répandu comme ça dans mon pratique du vélo. Et parce qu'à la base, c'est simple. Il faut tourner les jambes et rester debout, quoi. C'est assez simple. Et prendre du plaisir. Et toutes les choses, tout cet univers qui tourne autour de cet petit outil, en fin de compte, elle est très vaste. Elle est très vaste, mais il faut juste un petit étincelle pour tout mettre en rotation. Et ça, c'est génial dans cette pratique. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de faire plus, juste pour peur de casser cet engrenage-là qui se passe maintenant et qui me fait énormément plaisir.
Pour conclure, on va parler un petit peu de matériel. Aurélien, t'as quoi comme vélo et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton vélo?
Ouais, alors j'ai un Sauvage La Piste, un vélo titane avec un GRX 800, monoplateau, 40, plateau de 40 et 42 derrière. Donc voilà niveau matos. J'ai encore un VTT XC parce que bon voilà, faut toujours avoir un VTT dans son garage parce que quand t'as envie de te défouler juste 3 quarts d'heure dans 2-3 grimpettes, c'est toujours agréable aussi. Et voilà.
T'es en tubeless ou en chambre à air?
Richard, pas à moi quand même. Ouais, tu blesses évidemment.
Bon, d'accord, c'est bien. Louise.
Voilà.
Louise, donc Cervélo, Aspero, Apex.
Voilà, j'ai un Cervélo Aspero Apex, donc en full carbone. En fait, le monoplateau devant, c'est un 40, et derrière, j'ai une cassette de 11,42. Et je suis tout récemment passée au tubeless, comme tu as pu le voir à Naturist Bike. Donc,
Ah, c'était ta première fois, donc quand j'ai vu nos amis mécanos
ouais.
de Hutch en train de monter ton vélo, c'était
Ouais.
ta défloraison du tubeless, donc.
Presque, presque. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, j'avais
Oui, tu y
les
étais en
pneus
VTT avant,
d'origine.
en plus.
Moi, j'avais pas de VTT. Moi, je suis en route. En route, je suis en chambre à air. Donc, ça, je changerai pas. Et là, quand j'ai reçu mon Gravel, il était monté donc avec des Panacer Gravel King en chambre. Juste avant d'aller à Naturist Bike, j'ai demandé à des amis mécanos de me passer en tubeless. Et en fait, j'arrive à Naturist Bike à plat, quoi. Je me dis, ouais, je comprends pas, etc. J'avais un pote qui avait essayé de se passer en tubeless lui-même. Pareil, il avait eu des soucis, il fallait regonfler à chaque fois, on comprenait pas d'où ça fuitait. Du coup, le matin du vendredi, il pleuvait des cordes, on était bloqué au camping. Je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de galérer sur mon premier 100 km, je vais repasser en chambre. Donc, je démonte tout, je lave tout, je remets mes chambres. Et là, j'arrive à Naturist Bike, au stand Hutch, où ils proposent des pneus. Moi, de toute façon, j'avais déjà en tête d'acheter des pneus là-bas, mais je pensais pas du tout qu'ils pouvaient me les monter comme ça sur site, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment trop stylé sur ce festival de vélo. Enfin, c'était mon premier festival autour de vélo que je faisais, et j'ai trouvé ça trop bien d'avoir autant de stands dédiés au vélo avec vraiment toutes les possibilités, enfin, monter des pneus en tubeless, se faire réviser au stand SRAM, essayer des vélos qu'on peut même pas s'acheter. Enfin, j'ai trouvé ça trop stylé. Et du coup, là, c'était d'autant plus, je sais pas, j'ai envie de dire que c'était d'autant plus magique que le gars chez Hutchinson, il m'a dit, mais y a pas de problème. Tu vois, tu prends les pneus, tu fais un tour du festival en 15 minutes, t'es en tubeless. Et moi, j'étais là, sérieux, mais ça va tenir et tout. Enfin, Parce que j'avais, on m'avait dit oui, au début tu blesses, faut regonfler, machin. Donc ouais, j'étais vraiment impressionnée par ce passage extrême en tubeless. Et je suis très contente de mes pneus. Et j'ai pas crevé.
Alors, bon, attends, je me concentre.
Ouais.
Alors, je me suis concentré un instant pour pas me moquer de tes amis en fait. Donc, Sorine, à ton tour.
Moi, je viens de descendre un peu la moyenne du prix des vélos de cette discussion. Moi, je roule en aluminium avec un Megamo Yakar, ou Yakar, qui est un marque espagnole des vélos en
Ouais.
gravel. Assez peu connu.
Super marque d'ailleurs. Super
Oui,
marque.
moi, je
Peu
l'ai.
connue,
Je
mais
crois que je
super
l'aime
marque.
très bien. Sur laquelle, parce que c'est un vélo, voilà, on va dire assez entrée de gamme, il est à 1 700 ou quelque chose comme ça. Évidemment que moi j'aime très bien bidouiller sur mes vélos. Moi j'aime beaucoup avoir un cadre avec la bonne géométrie et les bonnes côtes, parce que tout le reste, ça peut être changé à mes goûts et à mon utilisation. Du coup, j'ai pratiquement tout changé, presque. J'ai des autres roues, j'ai des fulcrum, un tubeless qui sont chaussés des VTB en 45, des Riddler. J'ai toujours la transmission SRAM APEX, sauf que j'ai mis en cassette un 10-42 pour avoir un peu plus de plage. Je suis en 44 comme plateau récemment. Gros braquet. Parce que j'aime bien les sorties roulantes et tout ça. Voilà le petit centre qui va bien. Le Richie, le Venture Max, qui j'aime beaucoup. Je pense qu'il s'est promené sur 3 ou 4 vélos que j'ai eu dans mon garage. J'aime très bien ce centre avec ses drops très pas profonds. Et quoi d'autre? C'est plus ou moins tout. Bon, un tissu carbone, un lacelle aussi qui me suivent depuis 3 ans. Je pense que j'ai la même selle. C'est un Prologo Dimension 143. J'ai trouvé mon bonheur dessus. C'est bien. Je peux rouler avec cuissard, sans cuissard, en jeans, peu importe. C'est vraiment fait pour. C'est ça. Pas vraiment besoin d'investir. J'avais à la base, j'avais un budget assez bon, je veux dire, pour m'acheter un vélo de gravel. J'avais un peu plus de 3 000 et quelques euros. J'avais vendu un VTT et tout ça. Mais c'était très la galère de les avoir, les vélos ici dans le coin. Il y a des vélocistes, mais bon, je sais pas, le coin, c'est le coin specialized ici. Presque plus de moitié des vélos que tu vois rouler ici, c'est des spé. Du coup, les spé sont un peu prohibitifs au niveau tarif. Et je me suis dit, mais tiens, c'est mon premier vélo de gravel. Pourquoi bloquer entre guillemets autant d'argent dans un vélo sur cette pratique? Je ne sais pas forcément si je vais accrocher ou pas. Et du coup, je dis, tiens, je vais m'acheter ça. Ça va me laisser un peu d'argent pour la faire à mon goût. Et je vais rouler avec. Si jamais d'ici un an, ça va me plaire, je vais craquer sur quelque chose un peu mieux. Mais même là, ça me plaît, je suis arrivé à cette conclusion. Sauf que le vélo, je vois pas pourquoi je vais le changer. J'ai toujours un vélo de gravel que je roule très bien avec, qui n'est pas hyper lourd. Je sais pas, il fait autour de 10 kg, quelque chose comme ça. J'ai vu le S-Works, le Diverge, il fait 9 kg, 9 kg, quelque chose comme ça. Et on parle d'un vélo à 11 000 ou quelque chose d'heureux. Quand même. Je suis bien là avec mon petit Mégamo.
Bien
Et
sûr.
du coup, Franchement, je regarde tout. Je kiffe. Il y a des vélos comme le Trotter de Louise, le Cervélo de Louise, pardon. C'est un magnifique vélo. Il y a des lignes. C'est un beau vélo. Le vélo d'Aurélien aussi qui m'a frappé la première fois que je l'ai soulevé. Je dis, mais non, mais t'as pas accroché tes roues. Il y a quelque chose qui manque sur ce vélo. Ça peut pas être si léger. Mais oui, mais ça c'est juste visuellement. Voilà. Mais quand je roule avec, ça me fait presque toujours. Mais pourquoi je dois le changer? Pourquoi je veux le changer? Il est bien. Regarde, il roule tout seul. Il va bien, mon vélo. Du coup, c'est ça. C'est juste peut-être pour le kiff, mais même la semaine dernière, j'avais en discussion avec Aurélien, je sais pas, commander le Grizzle E-Tap. Je dis, mais juste pour avoir un vélo qui a un écrit sur le cadre, non, ça me va très bien comme ça.
Qui vote pour laisser le podcast et l'animation du podcast à Sorine? Parce que franchement, il est bien meilleur que moi. Hein. Je pense que là, en plus, moi, un mec qui me dit je suis en Apex monoplateau avec un 44. Oh putain. Là, je me dis, mais alerte grosse cuisse. Hein, parce que franchement, 44, ouais, c'est super impressionnant. Donc maintenant, je vais vous laisser le mot de la fin. Aurélien, tu as 1 minute pour dire quelque chose. Attention, je te chronomètre. Hein. Alors, pardon, je précise quelque chose d'intéressant.
Bah, quelque chose d'intéressant, bah, s'il y a des gens comme moi qui débutent le vélo et qui veulent passer ce cap comment dire, un peu psychologique des 100 km, bah, franchement, allez-y parce que c'est
Symbolique.
vraiment pas difficile. Ouais, symbolique, ouais. C'est vraiment pas difficile. Moi, quand Sorin m'en avait parlé en janvier, je m'étais dit, ouais, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et puis au final, caler quelques dimanches à pousser un peu sur les pédales, quelques après-midi après le boulot, des choses comme ça, franchement, ça se fait bien. Je pense que naturisme. Alors, c'est pas du tout pour faire de la pub pour le salon, hein, mais franchement, je pense que la trace là, elle est quand même facile. Surtout que les premiers kilomètres, enfin, il y a quand même deux tiers du tracé qui est très facile. Donc, franchement, c'est accessible. Je pense que ça peut être un bon pied à l'étrier. Et moi, je suis content d'avoir fait sur un événement comme ça parce qu'en gros, bah, c'était la motivation d'y arriver, enfin d'y aller déjà. Et tu passes la barre des 100 km, bah, t'es content. Enfin, franchement, j'étais content d'avoir fait le truc, quoi. Et c'est de faire dans un événement, tu vois, t'as le carpo jump, t'as tic-tac, ça rajoute un peu de piment dans le truc, je trouve. Donc, c'était vraiment pas mal, quoi. Donc, je le conseille vraiment à tout le monde. Et faites-le, ça fait vraiment pas peur. Enfin, c'est vraiment facile, quoi.
C'est bien ça, Aurélien, que tu précises que c'est accessible à tout le monde parce que on s'en fait toujours une histoire les premières fois et puis en fait on se rend compte que c'est pas grand-chose. Donc, mais comme tu l'as dit très bien, encore une fois, il faut juste rouler un tout petit peu avant. Et voilà, et ça se passe
Ouais,
très très bien.
alors avec Sorine, on avait fait une rando qui est organisée par un groupe de réseaux sociaux, là, par Comptoir Gravel, où c'est la Gravel Aixinoise, où on avait fait un rando de 70 km et je crois qu'il y a 800 ou 1000 de D+. Et du coup, quand on avait fini cette rando-là, je m'étais dit, bon, bah, en gros, ça devrait bien se passer pour Angers, puisque tu fais
Ah
70
oui.
bornes avec 1000 de D+. Bon, bah, si tu peux en faire 100 avec 400, normalement, ça devrait le faire, quoi.
Bah surtout que tu as certainement mis plus de temps à faire tes 70 km avec 1000 de D+ que tes 100 bornes avec 400 de D+. Donc on en revient à
Ouais, je
notre
pense,
fameux
ouais.
triangle distance temps dénivelé. Ah non, mais bah je fais du vélo des
Exactement,
fois hein, quand même.
ouais.
Ça m'arrive. Louise, allez, t'as une minute hors taxe.
Mot de la fin, ben moi ce serait plutôt pour inviter les débutants, ceux qui veulent se mettre au gravel, qu'ils aient fait du vélo ou pas, parce que c'est vraiment super chouette. On peut avoir des a priori sur le vélo de route, sur le vélo de VTT, un vélo de route un peu trop plan-plan, le vélo VTT un peu trop engagé. Ben franchement, le vélo de gravel, ça réunit les deux. Et ce qui me plaît vraiment dans cette nouvelle pratique, c'est le côté ludique. On s'est fait la réflexion avec des amis, les pentes en fait à 9 km, elles passent tellement mieux en gravel que quand on est sur un col, sur route, sur le bitume exposé au soleil. Et on s'est demandé, mais comment ça se fait qu'on arrive à mieux grimper en gravel que par rapport à la route? Mais parce que c'est plus marrant, on joue avec le terrain, on s'adapte, les paysages ne sont pas du tout les mêmes. Donc venez rouler gravel avec nous, parce que c'est vrai qu'en groupe aussi, c'est super cool. Donc franchement, je conseille, pareil, c'est pas forcément pour faire de la pub à Naturist Bike, mais c'est juste parce que c'est le premier festival vélo que j'ai fait. Mais je pense que je vais plus me motiver et motiver mes amis à bouger à travers la France, voire pourquoi pas l'Europe et le monde, pour participer à d'autres événements comme ça de vélo, que ce soit gravel ou route.
Bon, on est à 1h24, on va pousser jusqu'à 1h45 avec Sorine.
Non, c'est pas du tout ça. Pour moi, si je vais continuer dans le vent de mes collègues ici pour avoir un mot pour les débutants, parce que c'est ça le titre
Oui.
de toute notre discussion ici, c'est régularité. Essayer de sortir le plus souvent possible. Même si vous voyez, je sais pas, même s'ils voient devant eux un petit 45 minutes dans laquelle, à la place de rester et regarder un épisode de votre série, allez rouler un tout petit peu, même si c'est autour de la maison, découvrez de nouvelles choses, découvrez des autres traces, des autres routes, des autres boulangeries, des autres, pourquoi pas. Et ça va peut-être permettre d'arriver au point qui compte beaucoup, c'est le côté social du vélo. Tu vas en roulant souvent, tu vas forcément trouver quelqu'un, croiser quelqu'un. Ah, salut, ah, t'habites dans le coin. Allez, on roule ensemble. Aussi, essayer de soutenir, participer aux randos qui se font dans le coin. Essayez de soutenir les petites organisations. Il y a forcément un petit vélo club autour de vous. Allez-y là. Il n'y a pas que des gros braquets. Il n'y a pas que des mecs qui roulent en 44 comme plateau. Vous inquiétez pas. Connaissez des gens. Il y a forcément quelqu'un avec lequel vous allez être bien avec. Aller rouler, quoi. C'est juste ça. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'autre recette qui est mieux. Juste poser les mains sur le guidon, les pieds sur les pédales et vas-y.
Ben voilà. Moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus pertinent à ce que vous venez de dire tous les trois. Donc, je vais juste me contenter de vous remercier, de vous souhaiter une excellente soirée et bien plus important, je croise les doigts pour que l'on roule ensemble très très bientôt. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de rouler avec Louise, j'ai déjà eu l'occasion de rouler avec Noémie. Évidemment, donc maintenant il va falloir qu'on roule à nouveau et que je fasse rouler un petit peu cette Belge et surtout que l'on roule Sorine, Aurélien et toi, Louise, ensemble et qu'on rigole un petit peu et que vous me fassiez mal à la gueule un petit peu. Et voilà, donc je vous
Avec
souhaite.
grand
Non, mais je rigole
plaisir.
pas. Ah bah tu vois,
Mais
voilà, ça c'est
je pense que
l'attitude
si
qui
on
me plaît.
est.
Non, 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 non,
Mais
ça c'est l'attitude qui
on
me
est les
plaît,
trois.
on va te faire mal à la gueule. Ça me plaît. Ça me plaît.
De toute
Quand vous
façon, il n'y a pas
voulez,
de raison,
quand vous voulez,
on
on
est
y
les
va.
trois en région parisienne, donc on devrait réussir.
Bah
Ça,
ouais,
on va
puis
se mettre mal à
Chartres
la
aussi.
tête le lendemain.
Non bah hé, hey, si je passe une après-midi avec Aurélien, c'est pas avec le vélo qui va me faire mal à la tête, à force de me faire picoler. Tu sais, de toute façon, au quatrième mojito, je dis tout, hein, donc vous inquiétez pas, c'est normal. En tout cas, je vous remercie. Je vais couper.